12h15. RJB Info. Séverine Boé.
Bonjour, avant de commencer ces informations, toute l'équipe de RJB vous souhaite de joyeuses fêtes de Pâques. Du côté de l'actualité, BirdLife veut faire revenir les vanneaux huppés en Suisse et dans la région des Trois Lacs. Alors qu'à la fin des années 1970, la population de cet oiseau était de plus de 1000 couples nicheurs. Aujourd'hui, on en compte environ 200 dans le pays. Pour remédier à cette situation, BirdLife a créé le premier îlot à vanneaux de Suisse dans le Grand Marais à Inns. Lucas Lombardo est responsable du projet de conservation du vanneau huppé chez BirdLife Suisse. Il revient sur ce projet et ce qu'il a fallu entreprendre.
Tout d'abord, on a dû labourer le champ pour créer le sol ouvert et puis inonder. Donc ça sont les deux facteurs quasiment les plus importants pour attirer les vanneaux. C'est comme des magnets pour les vanneaux. C'est ça qui ressemble un peu à les sites de nidification naturelle. Donc vraiment des zones qui ont beaucoup, disons, de perturbations naturelles. Mais vu que c'est plus naturel ici, on fait ça avec les machines et surtout avec les vaches Highland.
Vous avez dû installer cette année une nouvelle clôture. Pourquoi ce choix?
Ouais, on est un peu forcé justement parce que les dernières années ou les années avant, on a essayé avec des clôtures, avec des fils électriques. Donc c'était des clôtures mobiles. Avec 10 fils électriques. Du coup, c'était deux fois par an, on a dû installer et démonter toute la clôture. Ça coûte beaucoup. Et puis, on a dû faucher une fois par semaine, justement pour ne pas perdre l'électricité. Et il y a quand même eu des renards qui ont pu entrer. Et l'année passée, par exemple, on a perdu plus de 20 nids dans une nuit. Il y a deux ans, il y a les renards qui ont bouffé tous les poussins, et du coup on était vraiment un peu forcé de dire ok, faut améliorer vraiment pour garantir un succès de reproduction au vanneau.
A noter que cet îlot a été créé sur 6 hectares de terres arables d'un terrain appartenant au canton de Berne. Dans le Seeland, une maison individuelle a été la proie des flammes hier après-midi dans le village de Triton, non loin d'Inns. Personne n'a été blessé. Le bâtiment, lui, est inhabitable, a indiqué hier la police cantonale bernoise dans un communiqué. Plusieurs corps de pompiers sont intervenus. Un hébergement provisoire pour les personnes touchées a été organisé avec le soutien de proches. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances et la cause de l'incendie. Nido fait un pas de plus vers le bilinguisme. Les autorités municipales ont annoncé cette semaine que le site internet de la ville proposerait plus de contenu en français, une offre qui n'est pas obligatoire pour une commune qui n'est pas officiellement bilingue. Le maire de Nido, Tobias Egger, nous explique pourquoi cela a été mis en place.
C'est parce qu'une motion a été déposée au conseil municipal par Pauline Poli, qui est aussi conseillère de ville pour le PRR. Mais personnellement, je trouve que nous avons en quelque sorte aussi le devoir. Je pense que c'était une nécessité. Après tout, Nido compte 25% de population francophone.
Ça veut dire que désormais, il y aura vraiment tout qui sera accessible également en français?
Partout, mais presque 100%. Les textes législatifs, les motions parlementaires et aussi les communiqués de presse ne sont pas traduits. Et les procès-verbaux du conseil de ville sont également en allemand. Mais pour le reste, tout devrait être disponible en bilingue.
C'est un bâtiment emblématique de Neuchâtel qui est célébré cette année. La collégiale du chef-lieu cantonal fête les 750 ans de sa consécration. Les travaux ont débuté au XIIe siècle pour se terminer en 1276. À cette époque, le château est déjà présent depuis plus de 150 ans sur la colline de Neuchâtel. Florian Schubert, pasteur référent de la collégiale, nous explique d'où vient l'idée de rajouter un édifice religieux au même endroit.
C'est vraiment la volonté des comtes de Neuchâtel de s'établir ici, qui sont à l'époque pas encore forcément comtes de Neuchâtel d'ailleurs, qui décident d'établir ici leur pouvoir temporel, donc d'habiter vraiment le château de façon principale. Et du coup, ils vont aussi progressivement se faire enterrer ici et construire une immense collégiale justement à côté pour un peu deux raisons. D'une part, justement pour leur prestige, pour montrer qu'ils sont là. Et d'autre part, pour aussi pouvoir abriter en fait des chanoines. C'est pour ça que ça s'appelle collégial, c'est parce qu'il y a un collège de chanoines. Et ces chanoines ont une une double fonction, c'est d'une part justement de prier, donc de défendre aussi le comté d'un point de vue spirituel, et d'autre part c'est ceux qui administrent le comté, qui font tout le travail d'une administration.
À ce moment-là, la ville de Neuchâtel, à quel point elle est développée ?
Alors c'est vraiment tout petit. Il y a une rue, en gros, ou deux. Et c'est vraiment le chantier aussi de la collégiale qui va faire grandir la ville, parce qu'il y a des maçons qui devront venir s'établir, puis des personnes qui s'en occupent, et puis des gens qui travaillent, des gens qui amènent à manger, enfin tout ça. Donc la construction de la collégiale et celle du château, en fait, lance le développement de la ville de Neuchâtel. Mais elle est toujours petite, elle est vraiment de ce côté-ci du Seillon, donc c'est vraiment une petite ville de peut-être 500-600 habitants.
Florian Schaubert au micro de Stéphanie Wenker. Le premier événement de célébration des 750 ans de la collégiale s'est tenu ce matin. Le culte de Pâques a été diffusé en direct en Eurovision depuis Neuchâtel. Une plainte contre X après la diffusion d'appels d'urgence passés dans la nuit de l'incendie à Crans-Montana. L'organisation cantonale valaisanne a déposé cette plainte contre, selon une information de la Sonntagszeitung. Elle concerne la publication d'enregistrements audio de la nuit du 31 décembre au 1er janvier qui ne concerne pas l'incendie de la boîte de nuit. Le secret professionnel, le secret de service ainsi que la loi sur la protection des données auraient ainsi été violés. Le département fédéral des affaires étrangères va mener la semaine prochaine des entretiens avec l'ambassadeur d'Israël en Suisse. Cela concerne la nouvelle loi élargissant le recours à la peine de mort. Le texte prévoit que les meurtres à motivation terroriste visant à détruire l'État d'Israël sont passibles de la peine de mort ou de la réclusion à perpétuité. La Suisse appelle Israël à respecter pleinement ses obligations internationales, y compris l'interdiction de la discrimination, ainsi que les garanties de l'État de droit et les garanties procédurales. Les États-Unis ont secouru leur deuxième pilote en Iran. Son avion s'est crashé vendredi et une opération militaire américaine avait été déployée pour le retrouver. Le président Donald Trump a annoncé son secours ce matin. L'avion s'était écrasé dans le sud-ouest de l'Iran et ses deux occupants s'étaient éjectés en vol. Le premier pilote aurait été exfiltré peu après le crash. L'armée iranienne a affirmé avoir abattu cet appareil. Et Donald Trump a encore rappelé hier soir son ultimatum lancé à l'Iran pour ouvrir le détroit d'Ormuz. La date butoir a été fixée à demain 20h sous peine de frappe contre les centrales électriques iraniennes, selon les menaces du président américain.
RJB Sport.
Fribourg-Gotteron s'est adjugé l'acte 1 des demi-finales des play-offs de National League de hockey sur glace. Les Dragons ont pris le meilleur sur Genève Servette 3-1 devant leur public au bout du suspense hier soir. Dans l'autre demi-finale, c'est Davos qui a pris les devants d'entrée de jeu. Les Grisons se sont imposés contre Zurich 4-2 à la maison. Du côté de la Swiss League, Sierre a pris une sérieuse option sur le titre. Les Valaisans, qui ne sont pas éligibles pour la montée, ont décroché un troisième point contre La Chaux-de-Fonds en remportant l'acte 4-5-0. Le HCC, qui a quant à lui l'ambition de monter en National League, n'a donc plus le droit à l'erreur s'il espère disputer des barrages contre le HC Ajoie. Chez les juniors élites, les M21 du HC Bienne joueront pour le titre demain à la Tissot Arena. La formation ceylandaise s'est imposée 4-1 à Zurich lors de l'acte 4 de la finale des playoffs et est revenue à deux partout dans cette série au meilleur des 5 matchs. Tout se jouera donc demain à 14h. Du football était aussi au programme hier en Super League. Le leader Thun a perdu des plumes face au troisième Lugano en s'inclinant sur la plus petite des marges, 1-0. Festival de buts entre Bâle et Young Boys qui se sont neutralisés 3 partout alors que Lausanne a pris le meilleur sur Winterthur 2-1. En Challenge League, Arrow est revenu à la hauteur du leader Vaduz. Il l'a fait grâce à sa victoire face à Rapperswil 5-4 hier. Vaduz et Arrow caracolent donc en tête du classement avec 15 points d'avance sur le troisième.
RJB Sport.
Il est 12h24, on s'intéresse encore au menu de la météo. Ce dimanche de Pâques, le ciel aura tendance à se voiler durant l'après-midi. La nébulosité d'altitude deviendra importante en fin de journée. Quelques averses isolées pourront s'activer dans le Jura avant la soirée. Du côté des températures, on attend jusqu'à 18 degrés à Saint-Imier, Tavannes et Tramelan. Les thermomètres afficheront 20 à Moutier-la-Neuville, 1 degré supplémentaire à Vienne. Merci d'avoir suivi ces informations. Excellente suite de journée à l'écoute d'RJB.